Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission Le Club Environnement, chaque mercredi à 10h sur RTL. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, donc un débat sur l'énergie, et plus particulièrement sur l'énergie renouvelable. Donc autour de cette table, nous sommes fiers d'accueillir 5 représentants, donc 5 belles personnes qui ont pris du temps pour venir nous voir et venir faire ce débat. Donc merci à eux. Donc tout d'abord, nous allons avoir Albert Delacroix, donc un scientifique qui est pour l'énergie renouvelable, donc un scientifique depuis 20 ans, donc un scientifique qui fait des études au laboratoire de Singapour en énergétique. Donc bonjour.
Bien, bonjour et merci à vous de me recevoir dans vos locaux.
Donc ensuite, nous avons un politicien, donc Jean-François Gobert, donc un politicien qui milite pour le nucléaire.
Tout à fait.
Donc bonjour monsieur Jean-François Gobert.
Bonjour à tous, merci de me recevoir.
Ainsi qu'un industriel, donc monsieur Paul Beckerman.
Oui.
Donc bonjour à vous, et puis vous êtes PDG de l'entreprise Solar Impulse.
Oui.
Donc basé en Suisse à Lausanne. Donc bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Ainsi que pour exception 2 citoyens. Donc nous sommes fiers d'accueillir un jeune étudiant donc en doctorat en génie nucléaire à Quimper, Maxime Dubois.
Merci bonjour. De m'avoir invité.
Et ainsi que Michel Delannoy. Donc Michel qui est retraité et qui est là pour nous parler de ses infrastructures qu'il a mis chez lui, donc notamment une éolienne et puis des panneaux solaires. Il nous en parlera plus précisément dans ce débat.
Bonjour.
Donc bien sûr, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez nous laisser des petits messages. On regardera en cours d'émission sur le Twitter rtl.fr et ainsi que la page Facebook. Donc voilà. Donc nous allons commencer par une question plutôt basique. Donc devons-nous tous passer au renouvelable, et qu'est-ce que le renouvelable? Donc nous allons laisser la parole à notre scientifique Albert Delacroix.
Eh bien, pour moi c'est une évidence, nous devons tous passer au renouvelable parce qu'on est actuellement en 2017. On voit les méfaits de l'énergie nucléaire et de l'énergie des autres types d'énergie, donc l'énergie du charbon, l'énergie pétrolière. On ressent tous les méfaits produits durant le XXe siècle, on le ressent actuellement. Pour moi c'est une évidence, nous devons passer le plus rapidement possible au renouvelable, et nous perdons du temps chaque jour.
D'accord. Jean-François Gobert, que pensez-vous de la remarque de Albert?
Je ne suis pas tout à fait d'accord, car pour moi l'énergie nucléaire est une très bonne alternative aux énergies fossiles. Donc ce n'est pas nécessaire de directement passer à l'énergie renouvelable. Pour moi, l'énergie renouvelable, c'est très très cher à mettre en œuvre. Donc ça implique des coûts de recherche et développement colossaux. Et le pays en ce moment ne peut sûrement pas encaisser ces coûts. Donc le nucléaire est déjà très bien développé en France. Donc on peut peut-être commencer à développer le renouvelable, mais pour moi le nucléaire est une meilleure alternative pour l'instant.
Alors permettez-moi juste d'ajouter que vous parlez d'énergie fossile, mais en soi, l'énergie nucléaire peut être considérée comme une énergie fossile dans la mesure où le nucléaire est une ressource qui n'est pas renouvelable et qui ne se renouvelle qu'au bout d'énormément de temps. Il faut bien extraire de l'uranium pour nos centrales nucléaires. Et c'est une extraction qui est extrêmement polluante et tout aussi coûteuse.
Excusez-moi, selon vous, on devrait passer tout de suite au renouvelable?
Tout à fait.
Le plus vite possible.
Le plus rapidement possible.
Même si on doit polluer énormément la planète.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par polluer énormément la planète?
Pour enlever les centrales nucléaires, ça va polluer énormément la planète.
Tout à fait. Et ça implique des coûts très très élevés pour le démantèlement de toutes les centrales.
Alors, pour le coût du démantèlement, je pense que, personnellement, je préfère payer légèrement plus sur mes impôts et avoir des centrales démantelées en France. C'est une simple question de sécurité. Et de plus, c'est une question de rentabilité. C'est vrai qu'actuellement, c'est quelque chose qui va coûter très cher, mais à l'avenir, ce sera rentabilisé.
Surtout que moi, je voudrais rajouter quelque chose. Comme le nucléaire, c'est basé sur l'extraction de l'uranium, on ne sait pas vraiment s'il va en rester assez pour produire assez d'énergie, alors que si on commence à passer au renouvelable, le renouvelable, on pourra toujours en créer, alors que le nucléaire et le fossile, ça peut s'arrêter très rapidement.
Monsieur Paul Beckerman, que pensez-vous des remarques des autres invités ici présents à la table?
Et pour moi, je pense que l'énergie nucléaire, il a laissé un serpent caché sur le flotte. C'est-à-dire que il va engendrer la sécurité pour les gens. Et par exemple, en 1966, il y avait une fuite nucléaire en Ukraine. Et le plus proche, c'est en 2011 au Japon. Il y avait aussi une fuite nucléaire. Et du coup, je pense que c'est pas bon pour la planète si il a fruit ou des autres.
Je voudrais rajouter quelque chose.
Allez-y.
Il y a 220 000 salariés dans le nucléaire, dont 2500 entreprises en France. Déjà que la France a des problèmes de chômage, voulez-vous en rajouter? Outre le fait que le nucléaire est une énergie polluante, ça va créer encore plus de chômage.
Vous pouvez me rappeler votre nombre d'emplois pour le nucléaire, s'il vous plaît?
220 000.
220 000, d'accord.
Salariés.
Actuellement, c'est vrai qu'il y a énormément d'employés dans le nucléaire. Mais la recherche pour le démantèlement des centrales nucléaires crée énormément d'emplois. Et la recherche pour les énergies renouvelables, le maintien en l'état des différentes productions d'énergie renouvelable, donc des éoliennes, des barrages hydrauliques, crée aussi énormément d'emplois. La fabrication de ces énergies renouvelables, de ces modes d'énergie renouvelable, crée aussi énormément d'emplois. Je pense que c'est une question qui est, pardonnez-moi, mais dépassée. Ce n'est pas le cœur du débat.
Moi, je suis d'accord avec vous, parce que moi, je possède donc une éolienne et un panneau solaire, et pour garantir la production d'électricité et pour que je sois le plus autonome possible, je dois tous les mois ou tous les deux mois faire venir quelqu'un pour entretenir et voir si les panneaux solaires et mon éolienne fonctionnent correctement. Donc ça crée de l'emploi pour...
Oui, mais appeler une personne un mois ou tous les deux mois, ça ne va pas créer un emploi fixe.
Bah, s'il y a de plus en plus d'éoliennes et de plus en plus de panneaux solaires, il faudra bien qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'occupent
Mais l'énergie renouvelable, elle ne représente que 13% de l'énergie en France.
Oui, c'est pour ça qu'il faut continuer à aller dans le sens augmenter les énergies renouvelables.
Monsieur Lannoy, je suis d'accord avec vous sur un point, sur le fait que si on fait des infrastructures renouvelables, il y aura quand même des nouveaux emplois. Mais le problème, c'est que les gens qui sont employés dans le nucléaire, comment va se passer pour eux la reconversion dans un autre métier?
Donc ces gens-là, ils ont, je pense, des capacités dans tout ce qui est énergie, ils ont des connaissances. Et forcément, donc, s'ils travaillent dans le nucléaire, je pense qu'ils se sont quand même intéressés aux énergies renouvelables, puisque c'est quand même l'avenir, on ne peut pas dire l'inverse. Et donc, il faut que l'État, les politiciens, créent des formations pour reconvertir les personnes qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire afin de les emmener vers une énergie renouvelable.
D'accord. Donc, une autre question. Le mouvement de transition en énergie renouvelable est-il possible dans le monde entier?
Eh bien, c'est possible, mais il faudrait une coopération internationale et mondiale. Parce que si on fait une transition énergétique, mais seulement dans les pays développés, donc les pays occidentaux, les pays du Nord, ça sera pas très utile parce qu'on va délocaliser toutes nos entreprises dans les pays du Sud. Donc, qui ont des normes beaucoup moins strictes, et du coup on va juste déplacer la pollution, donc ça n'a pas vraiment de sens et il faut une coopération mondiale.
D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur Delacroix?
Je rajouterais qu'il faut passer au renouvelable pas uniquement en France, bien que la France soit un des plus grands pays producteurs d'énergie nucléaire, mais dans le monde entier, pour plusieurs raisons, c'est que chaque type d'énergie renouvelable s'adapte à différents pays. Par exemple, des champs de panneaux solaires s'adapteront bien mieux en Afrique que en Norvège, par exemple. Et ainsi, un barrage hydraulique, pour le coup, s'adaptera bien mieux dans les pays scandinaves plutôt qu'en Afrique. Chaque pays doit prendre leur part d'énergie renouvelable et s'adapter à leur géographie.
D'accord. Donc maintenant, nous allons voir un slogan donc, de Leroy Merlin. Donc Leroy Merlin nous dit « Vous voulez une maison plus économe en énergie ?» Donc on va se baser sur le « plus économe en énergie ». Donc « plus économe en énergie » veut-il dire énergie fossile ou énergie renouvelable ? Paul Beckerman.
Pour moi, je pense que c'est pour l'énergie renouvelable. Parce que en Union européenne, on va annuler le carburant, l'énergie fossile en 2030. Et du coup, je pense que presque tous les pays a déjà encouragé les gens pour produire l'énergie plus propre et sans pollution autant que possible.
Je suis d'accord avec vous, mais là, nous ne parlons pas d'énergie propre, nous parlons juste d'être plus économe en énergie. Donc cela ne veut pas dire avoir une énergie qui ne pollue pas, avoir une énergie qui pollue. Ça veut juste dire être plus économe en énergie. Donc c'est-à-dire faire des économies d'énergie.
Ah ok.
L'énergie fossile est la réponse. Maintenant, le mégawattheure coûte 59,8 euros. Il a augmenté de 20% sur 3 ans. Savez-vous pourquoi pouvez-vous expliquer ce phénomène ? Eh bien, la réponse est toute simple, c'est parce qu'on investit plus dans l'énergie renouvelable que dans le nucléaire.
Exactement.
Donc la solution, c'est d'investir plus dans le nucléaire que dans le renouvelable.
Soyons un petit peu sérieux, monsieur Dubois, et intéressons-nous au vrai problème. Actuellement, vous dites qu'on investit énormément dans l'énergie renouvelable et ça influe le coût du kilowattheure.
Oui. Parce qu'on investit moins dans le nucléaire.
Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que le coût du kilowattheure augmente. Bon, c'est vrai parce qu'on investit dans l'énergie renouvelable. Et encore, c'est l'État qui investit, pas les producteurs d'énergie renouvelable, donc pas les producteurs d'énergie nucléaire, pardon.
C'est nous qui payons par
donc,
les impôts.
Donc Areva. Et le gros de cette différence d'énergie se fait car Areva doit entretenir de vieilles centrales nucléaires, donc celle de Fessenheim par exemple. Et c'est un entretien qui est hors de prix, qui coûte énormément d'argent et qui influence du coup énormément le prix du kilowattheure. Et de plus, le prix du kilowattheure ne doit pas descendre trop bas. Car c'est comme n'importe quel produit en bourse. S'il descend trop bas, ça crée tout simplement une crise économique. Et les sociétés productrices d'énergie et l'État en est perdant. Tout le monde en est perdant.
Il y a 3 ans, on n'était pas en crise économique. Pourtant, il a quand même augmenté de 20%.
Que la crise économique n'a pas le même lien que le prix du kilowattheure. C'est juste que le prix du kilowattheure est en crise. C'est difficile.
Je voudrais rajouter quelque chose sur le prix du kilowattheure. Si vous vous plaignez de payer votre électricité trop cher, vous pourriez faire comme moi et acheter une éolienne ou un panneau solaire. Déjà, vous pourriez créer votre énergie que vous avez besoin pour chauffer votre eau, pour prendre votre douche. Et mon énergie qui, en plus, qui me sert en trop, je la revends pour d'autres personnes. Et donc, cette énergie propre elle me coûte moins cher.
Ça coûte cher d'installer des éoliennes.
Oui, bien sûr, mais...
Vous dites qu'il n'y a que les riches qui peuvent avoir de l'énergie renouvelable.
Ah non, mais c'est pas ça que je dis, c'est que surtout les panneaux solaires et les éoliennes, faut pas penser seulement en termes d'argent, faut penser aussi à la planète pour plus tard, à vos enfants, si vous en avez. Il faut qu'ils puissent vivre sur une belle planète, et je pense que les problèmes d'argent, il faudrait que les politiciens, par exemple, nous donnent des aides plus facilement afin de pouvoir installer des éoliennes et des panneaux solaires.
C'est un investissement sur le long terme. Certes, une éolienne actuellement coûte très cher, mais si vous la gardez 20 ans dans votre jardin, vous inquiétez pas que vous allez la rentabiliser. Chaque année, elle vous créera même de l'argent.
Monsieur Gobert, que pensez-vous à la remarque de Monsieur Delacroix ?
C'est peut-être vrai, mais les énergies nucléaires ne peuvent pas subvenir aux besoins de tout un pays. Elles ne peuvent pas subvenir aux besoins des industries qui demandent une très très grosse quantité d'électricité. Donc pour quelques foyers, c'est peut-être possible, mais pour, à l'échelle d'un pays, on ne peut pas être entièrement dépendant d'énergie renouvelable. C'est l'énergie renouvelable, elle dépend du climat et elle ne produit pas toujours quand on en a besoin. C'est ça le grand problème. En été, elle produira moins et elle produira plus, désolé. Et en hiver, il y aura moins de soleil et moins de vent. Et c'est à la période où on a plus besoin d'électricité et elle produira moins. Donc c'est pas très...
Je comprends parfaitement le problème, mais déjà il y a beaucoup de contre-exemples de pays qui utilisent énormément d'énergie renouvelable. Et de plus, le problème c'est que vous vous basez uniquement sur l'éolien et le solaire. C'est vrai que c'est actuellement les sources les plus développées d'énergie renouvelable. Et quand il n'y a pas de vent, une éolienne produit beaucoup moins d'énergie que quand il y a du vent. Je suis tout à fait d'accord. Pareil pour une énergie solaire. Mais ça n'est pas les seuls moyens de produire de l'énergie renouvelable. Beaucoup d'autres moyens, comme les moyens qu'utilisent la marée, les moyens houlomoteurs qui utilisent les vagues ou ce genre de choses, produisent des énergies sans qu'il y ait forcément du vent et du soleil. Même la nuit, même à n'importe quel moment de l'année.
Monsieur Paul Beckerman, vous qui êtes PDG de Solar Impulse, que pensez-vous des nouvelles inventions que vous avez créées dans votre entreprise pour contrer Monsieur Gobert?
Oui, je dirige une entreprise sur l'avion électrique et l'électricité. Et du coup, je pense que chaque pays est différent. Et du coup, on traite différent pour chaque pays. C'est-à-dire que si y a des pays en voie de développement, ils n'ont pas besoin d'énergie comme éolienne, énergie éolienne ou énergie hydraulique. Ils ont besoin de carburant, charbon ou fossile. On peut... Comment dire ça? On peut utiliser des autres. Et ça veut dire que l'émission de pollution, l'émission de pollution est plus... est moins rapide. Moins rapide que le renouvelable de naturel.
Oui, mais cela a un coût.
Et maintenant, on a réalisé la plupart des pays, on utilise l'énergie renouvelable pour l'environnement. Du coup, c'est pour vous, selon vous avez dit tout à l'heure, c'est juste un tout petit peu.
Bah, l'énergie renouvelable, selon moi, elle doit être un complément aux autres énergies, parce que elles peuvent pas produire autant que les énergies renouvelables, que les énergies nucléaires par exemple. Donc pour moi, ça devrait être un complément. On devrait peut-être augmenter sa part pour limiter la pollution, c'est sûr, mais ça peut pas représenter 100% de notre production. C'est très difficile.
Je suis d'accord avec Jean-François Gobert. Je pense qu'il faut avoir un mix énergétique raisonné et raisonnable. Avoir une certaine part d'énergie renouvelable et nucléaire. Et je pense que nous sommes à 73% pour le nucléaire et 13% pour le renouvelable. On peut aller jusqu'à 20% pour le renouvelable, mais pas moins. Mais pas plus,
je veux dire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faudrait carrément aller à 100% d'énergie renouvelable pour pouvoir chacun produire notre énergie, qu'elle soit propre et que la planète elle n'ait pas en plus du nucléaire. Parce que déjà que la planète a subi à cause du plastique et tout ça, plus les énergies, ça commence à faire beaucoup. Donc il faut vraiment aller de plus en plus sur l'énergie renouvelable, sinon on ne va pas survivre.
Donc maintenant, nous allons passer à un tweet. Donc avec un auditeur, une chère auditrice qui nous a répondu grâce à notre compte Twitter. Donc Myriam nous dit « Pour subvenir à la population en énergie, le renouvelable est-il suffisant ?» Donc Monsieur Beckerman, que pensez-vous de cette question de notre chère auditrice Myriam?
Oui, je pense.
Qu'est-ce que vous pensez de cette question?
Je pense que le renouvelable peut suffisant pour tout le monde dans l'avenir.
Donc le renouvelable, pour vous,
oui,
peut subvenir aux besoins de toutes les populations, que ce soit les populations les plus riches comme les populations les plus pauvres?
Oui, je pense. Avec l'évolution de la technologie, on produira beaucoup d'autres types d'énergie pour pour donner des gens, pour les gens utiliser. Et puis on va créer des nouvelles énergies pour en remplaçant l'énergie, par exemple l'énergie fossile, l'énergie nucléaire.
Serge, je suis d'accord avec vous, mais cependant, les pays qui ne sont peu développés n'ont pas forcément les moyens d'avoir de nouvelles infrastructures en environnement durable, en énergie durable.
Mais ils peuvent l'utiliser quand même.
Alors,
allez-y, monsieur Albert.
C'est pour ça que c'est vrai que les pays en voie de développement n'ont pas les moyens de passer à l'énergie renouvelable. Mais pour autant, est-ce qu'elles doivent passer à l'énergie nucléaire? Parce qu'on le rappelle, elles n'ont pas non plus énormément de moyens de production d'énergie tout court. Je pense que c'est aussi à nous de les accompagner et de les aider, de les financer, ces énergies renouvelables, car c'est des pays qui subissent nos erreurs passées. C'est dans ces pays, donc par exemple la plupart des pays d'Afrique, que l'on exploite l'uranium. Et c'est ces pays, les pays d'Asie principalement, qui ressentent les effets de notre pollution. Donc c'est à nous aussi d'essayer de réparer un minimum les erreurs que nous avons faites durant les dernières années.
Et surtout que si ces pays commencent déjà donc, à se développer, il faudrait que si directement ils se développent avec une énergie renouvelable, ils pourraient nous surpasser carrément, puisque l'énergie renouvelable c'est l'avenir. Et nous, on est dépendant du nucléaire pour l'instant, alors que si eux, ils basent carrément toutes leurs entreprises, par exemple, au lieu d'avoir des grands toits vides comme par chez nous, ils pourraient avoir une grande rangée de panneaux solaires et produire leur propre énergie et directement se baser sur quelque chose de propre, pendant que nous, derrière, on aurait du mal à produire d'énergie renouvelable et peut-être un jour être en retard au niveau du renouvelable.
Tout à fait.
Monsieur Gobert, êtes-vous d'accord avec Michel Lannoy?
Non, pas vraiment. Parce que pour moi, l'énergie renouvelable, elle ne permet pas un développement rapide dans ces pays. Elle ne permet pas une production d'électricité suffisante pour développer toutes leurs industries. Là, ils sont en train de... ils veulent développer leur industrie pour produire plus et développer leur pays, c'est normal. Et l'énergie nucléaire... Elle serait mieux car elle permet une très forte production et assez rapidement. Alors que le nucléaire, c'est à très long. Le renouvelable, excusez-moi, c'est à long terme et la production est très limitée.
Oui, mais sur le plus important quand même, c'est sur du long terme. Puisque si sur du court terme, ils arrivent à produire très rapidement, sur le long terme, donc on sera de plus en plus à polluer et ça, la planète, elle va pas résister.
Vous avez dit que la planète ne va pas résister. Mais si on passe à 100% d'énergie renouvelable, on va devoir démanteler toutes les centrales. Déjà, rien qu'en France, on a 58 réacteurs répartis sur 19 centrales.
Ça fera 58 accidents au moins possibles par an.
Oui, mais ça fera un énorme pic de pollution.
Comment ça?
Pour démanteler, ça pollue énormément.
Oui, donc vous...
Donc sur l'instant présent, ça
va énormément. Vous préférez qu'il y ait des accidents tous les mois ou tous les ans plutôt que de démanteler et... polluer pendant une petite durée de temps plutôt que sur toute
la... très énormément sur une petite durée de temps.
Donc vous, en fait, pardonnez-moi, mais vous tirez une balle dans le pied là. Vous dites vous-même que l'énergie nucléaire est très polluante et que c'est une énergie qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire que c'est des menottes que nous avons et nous sommes obligés de la continuer, sinon nous allons tous mourir.
Oui, donc, c'est ce que je veux dire. Je pense que l'on est très bien comme on est.
Donc ainsi, il faudrait de nouveau continuer à produire cette énergie extrêmement dangereuse.
Non, extrêmement dangereuse si on la démantèle. Si on ne touche pas en continuant à y produire, elle n'est pas énormément dangereuse.
Elle produit quand même énormément de déchets radioactifs, qui ne sont bien évidemment pas en France, mais voilà, chaque pays a subi les conséquences des autres.
Non, c'est...
Donc nous allons continuer avec un auditeur qui nous appelle, donc nous allons l'écouter dans quelques temps.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors j'aurais une petite question à poser à nos chers interlocuteurs. Serait-il possible qu'un jour nous créions de l'énergie sans rejeter des déchets qui sont mauvais pour la planète Terre?
Donc, monsieur Paul Beckerman, qu'avez-vous à répondre à ce cher auditeur?
Pour moi, je pense qu'on peut réutiliser ce déchet-là, ou on le traite en la façon propre. C'est-à-dire qu'on le fait ou qu'on le détruit en respectant l'environnement.
Alors pour vous, oui, on peut détruire les déchets que l'on crée.
Oui, c'est ça.
Mais si ces déchets sont mauvais pour la planète, comment cela est-ce possible?
Mais on a la façon pour transporter dans l'espace.
Ce que vous dites, c'est qu'on va vous préférez polluer l'espace que polluer notre planète Terre.
Oui, non. Parce que j'ai déjà dit la vitesse de renouvelable est plus rapide que l'émission de pollution.
Oui, mais dans votre cas.
Oui.
Donc, par exemple, vous, monsieur Jean-François Gobert, vous qui êtes pour le nucléaire, que pensez-vous de cette question de notre cher auditeur?
Eh bien, mes collègues sont en train actuellement mener des recherches donc sur la fusion sur les réacteurs à neutrons rapides. Donc ça permettra de réutiliser l'uranium. Donc comme ça, on n'aura plus besoin de traiter les déchets radioactifs parce qu'on va perpétuellement réutiliser les déchets. Donc étant donné que le nucléaire ne pollue pas l'atmosphère directement, on aura très très peu de pollution sur la planète si on arrive à mettre en œuvre ce réacteur à neutrons rapides.
Et si on parle en quantité de déchets, quand on produit au nucléaire, donc il y a des déchets radioactifs. Et en plus, donc, tout à l'heure, on parlait du démantèlement des centrales nucléaires, donc ça fait encore plus de déchets. Alors que quand on utilise une éolienne ou un panneau solaire, comme moi par exemple, les seuls déchets, donc c'est l'éolienne physique ou le panneau solaire tel qu'il est, mais ce n'est pas dû, il n'y a pas de déchets dus à la production d'énergie. Contrairement au nucléaire où il y a les déchets radioactifs.
Je suis d'accord avec vous sur un point, mais cependant, lorsque vous allez vouloir enlever vos panneaux solaires, et puis comment allez-vous faire pour ne pas polluer en démantelant votre panneau solaire?
Bah déjà, je pense pas que mes panneaux solaires, je vais vouloir les enlever, puisque ils produisent mon énergie, et je pense que la plupart des matériaux qui composent les panneaux solaires, ils sont recyclables, donc je pense que c'est une bonne solution.
Mais chaque panneau solaire a une durée de vie. Au bout de quelques années, elle va s'user, elle ne pourra plus marcher.
Sauf qu'un panneau solaire ne risque pas d'exploser et de contaminer tout un pays entier.
Et puis il y a des personnes qui sont là, comme je le disais tout à l'heure, pour les renouveler et pour les entretenir.
Monsieur Beckerman, avez-vous un mot à rajouter?
Je pense on va résoudre ce problème et on va créer une nouvelle façon pour transporter des déchets que vous avez dit des mauvais pour la planète.
D'accord. Donc monsieur Albert, pensez-vous qu'un jour nous pourrons au moins réduire la quantité du nucléaire pour venir équilibrer avec l'énergie renouvelable?
Je l'espère, mais vu l'avancement actuel du débat, je crains que ce soit trop tard si cela arrive un jour. Je l'espère fortement, mais en France, cela me paraît difficile, non pas parce que nous en sommes incapables technologiquement, mais parce que le débat semble très fermé sur ce sujet-là.
Je voudrais terminer.
Allez-y, par un dernier mot.
Je pense que l'énergie nucléaire n'est pas une énergie du passé, mais une énergie du futur. Elle commence même à prendre sa place dans la médecine, dans certains types de diagnostics ou de thérapies. Donc je pense qu'il faut privilégier le nucléaire et moins investir dans le renouvelable, qui n'est pas une solution permanente.
Quelqu'un pour en conclure sur ce débat?
À moins que vous voulez passer à 200 euros le mégawattheure.
Nous allons rester là pour ce débat. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission spéciale de la semaine, ainsi que merci à tous les participants. ici autour de cette table qui ont pris du temps pour venir faire ce débat malgré la non-conclusion les uns avec les autres. Donc maintenant nous allons présenter entre guillemets le sujet de la semaine prochaine qui se portera sur les ONG. Donc voilà, donc bien évidemment merci à toute l'équipe de production ainsi que la régie. Et